Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM en compagnie d'Alex Chartrand pendant la prochaine heure et demie en ce beau jeudi 7 mars 2024 où, comme à chaque semaine, on va parler techno. Et je continue dans ma lancée de la semaine dernière à être un petit peu plus désenchanté face aux nouvelles techno parce que les nouvelles se ressemblent énormément et des fois j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même préparé quelque chose à l'émission puis j'ai même trouvé un article vraiment intéressant que j'ai hâte d'aborder. Il va aussi avoir un petit retour d'Elon Musk qui continue à faire ce que Musk fait de mieux, c'est-à-dire être... comment je pourrais le dire de manière polie? Ben, il est juste fatigant, comme d'habitude, mais ça concerne OpenAI. Donc, je vais vous raconter un peu la saga qui se joue là-dessus. On va aussi revenir sur la petite panne de Facebook qui a eu lieu mardi, donc qui a privé... En fait, on dit panne Facebook, mais c'est la panne Meta. Et donc, ça a causé des petits problèmes, surtout les réseaux qui appartiennent à la compagnie. Donc, voilà, mais... je parle de désenchantement par rapport aux nouvelles techno, mais c'est aussi parce que, en fait, quand vous passez d'un média à un autre, du moment qu'on couvre, que ça couvre en fait de la techno, si vous allez sur des sites soit plus spécialisés ou des sites plus généralistes qui ont une section techno, ben souvent, ben, on retrouve les mêmes nouvelles parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de diversité dans la nouvelle. Les angles sont souvent les mêmes, donc il faut vraiment creuser des fois pour avoir une analyse approfondie des enjeux ou aussi d'avoir une diversité de sujets. Donc, j'ai souvent l'impression qu'on fait le tour des mêmes et mêmes choses. Naturellement, l'intelligence artificielle domine beaucoup les conversations en ce moment, donc ça revient ici et là. Donc, des fois, j'ai l'impression de tourner un peu en rond. Fait que c'est difficile d'avoir quelque chose de nouveau à partager à l'émission. Mais quand même, j'ai trouvé des choses pour cette semaine. Je voulais aussi faire un petit retour sur l'épisode de la semaine dernière où j'ai beaucoup parlé du domaine du jeu vidéo et donc de PlayStation. Et c'était drôle parce que je parlais avec des collègues à CISM qui disaient que mon analyse, ou en tout cas ma reprise de l'analyse autour de PlayStation était peut-être un peu dramatique, que c'était pas des... parce que j'ai beaucoup parlé du déclin de la PlayStation 5. Là, ça a été annoncé en grande pompe que la PlayStation 5 était un peu vers une pente descendante et les gens se disent « Oh my God, que se passe-t-il? » Et on m'a dit qu'il y a peut-être une forme d'exagération là-dedans. Et c'est vrai, donc toujours on rappelle des fois que ma perspective aussi à l'émission, ben c'est aussi teinté de mes opinions, mais aussi des opinions des personnes que je lis. Des fois, il y a des choses qui se reflètent là-dessus. Donc, c'est bien d'avoir une diversité d'opinions et de développer son sens critique là-dessus. Mais ça m'a aussi fait réaliser que ça me fait... je m'ennuie, en fait, d'avoir des personnes à l'émission pour pouvoir apporter leur expertise, parce que je touche un peu à tout dans l'univers de la techno avec Avez-vous du Wi-Fi, mais ma perspective est quand même spécifique. Et des fois, j'aurais besoin d'avoir des gens qui pourraient parler un petit peu plus en profondeur de certains sujets. Entre autres, le monde du jeu vidéo, bien que je suis moi-même passionné par l'industrie, je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui se passe dans cet univers. Donc, qui sait, peut-être que je devrais créer une chronique jeu vidéo à l'émission. Ça pourrait peut-être être intéressant. Mais je faisais juste le dire pour rappeler que c'est important de diversifier ses sources. Donc, voilà. Là-dessus, on va commencer tout de suite en musique et on va aller écouter la chanson « Fleurs de saison » de Émilie Simon. Et moi, je vous reviens pour vous parler de cette fameuse panne chez Meta.
Dès les premières lueurs, oh, je sombre.
Tout bientôt. comme le Burning Man dans mes veines. Y'a beaucoup trop de morning blend. Vodka soda puis c'est parti. J'suis vraiment bien dans mon hoodie. Zéro patience, j'ai rien à perdre. J'suis pas jolie pis pas poli. J'ai besoin d'espace, 4 mètres minimum. Tu peux m'aimer à distance ou sur ton téléphone. Les fast, die young, bad girls, do it well. J'aimerais une tequila avec un petit peu de sel, s'il vous plaît. Enveloppé par les spots pis I don't know why. J'suis épuisé mais j'les en veux, j'suis ben trop high. Enveloppé par les spots, puis I don't know why. J'suis épuisé, mais j'les en veux, j'suis ben trop high. J'suis épuisé, mais j'les en veux, j'suis ben trop high. Baby, baby, j'suis spicy comme wasabi. J'fais tout fondre dans mon bain-marie. Trop de drip, j'suis besoin de parapluie, là. Yeah, sortie jumelle, mat safari. J'suis un spécimen qui check aucune cause, ça c'est mystérieux. Yeah. Inquiète pas, je suis un bon candidat. Je suis monté, c'est comme du paprika. Je débarque en ville, puis je fonce dans le tsakor et de. Je suis pas désolé, c'est pas délicat. Enveloppé par les spots, puis I don't know why. Je suis épuisé, mais je les envoie, je suis ben trop high. Je suis épuisé, mais je les envoie, je suis ben trop. Enveloppé par les spots, puis I don't know why. Je suis épuisé, mais je les envoie, je suis ben trop.
J'aime ce que je vois, c'est toi qui me donne la dalle. I got the good stuff that you want, that you need. Tu veux tout le gâteau et manger la cerise. J'suis plus tasty comme sucre glace, sucre d'orge, sweet chili pepper honeycomb. Inquiète pas, j'ferai aucun coup d'état. T'es aussi hot que la caméra. Qui s'y frotte, s'y colle, s'y pique. I wanna taste, taste, taste. Fake puff, puff, pass. J't'ai follow back, babe. Enveloppé par les spots, puis I don't know. J'suis épuisé, mais j'les en bats, j'suis ben trop.
J'suis épuisé, mais j'les en bats, j'suis ben trop.
Enveloppé par les spots, puis I don't know. J'suis épuisé, mais j'les en bats, j'suis ben trop.
J'suis épuisé, mais j'les en bats, j'suis ben
heureux, bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre les chansons L'île aux bleuets de BB Club et ça a été suivi de Wasabi de Soraya qui est au palmarès franco à la 15e position. Donc voilà, et on continue. Ben, en fait, on va se lancer dans les nouvelles techno. Et dans mon introduction, j'ai complètement oublié de mentionner quelque chose d'autre par rapport à PlayStation, qui a annoncé aussi cette semaine de supprimer 900 postes supplémentaires. Donc, il y a des nouvelles coupures qui sont à prévoir chez Sony. Et ça accompagne d'autres coupures qu'il y avait eu dans les semaines précédentes. Donc, malgré tout, on peut quand même dire que ça va pas très bien dans dans l'univers PlayStation. Donc, quand même, ça brasse beaucoup, disons. Donc, il y a peut-être des studios à Montréal qui vont être touchés par ça. Donc, étant donné que la compagnie possède énormément de studios à travers le monde. Mais, donc, vous pouvez aller voir les listes si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais bon. Donc, voilà pour du côté de Sony. Et là, on va aller parler de Meta. Donc, pour ceux qui étaient connectés mardi en fin de matinée, vous avez peut-être remarqué qu'à partir de 10h, nous étions tous et toutes plus capables d'accéder à nos plateformes. Donc, il y a eu une panne dans le réseau de Meta qui s'est répandue sur Instagram, naturellement, sur Facebook. Il y a eu WhatsApp qui a été affecté, Threads aussi. Donc, beaucoup d'applications qui utilise l'écosystème de Meta. Donc, ça l'a privé beaucoup de... Ça nous a tous un peu coupé de la plateforme pendant quelques heures. C'est pas la pire panne qu'on a vue. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une panne Meta, c'était peut-être l'année passée ou il y a 2 ans, où on avait été coupé pendant quand même une bonne partie de la journée. Ça avait causé des graves problèmes. WhatsApp, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans des pays comme en Inde, apparemment que, par exemple, la divulgation de résultats médicaux passe beaucoup par les plateformes de médias sociaux. Et donc, ne pas avoir accès à WhatsApp a créé des problèmes dans le réseau de santé. Donc, ça, c'était un cas particulier. Mais on voit que quand les applications prennent une part de plus en plus forte dans nos moyens de communication, et on parle de communication au-delà de ce qu'on fait, de ce qu'on peut entendre souvent par les réseaux sociaux. C'est pas juste la communication avec notre famille ou nos amis, la communication personnelle. Des fois, il y a d'autres types de communication qui existent. Ça pourrait être... si vous pensez à des applications qui sont encore plus intégrées dans la vie quotidienne des gens, on peut se déplacer en Chine avec WeChat, où c'est... oui, c'est une application de clavardage, mais c'est aussi une application sur laquelle on a des cartes d'identité. Ça nous permet d'accéder à des services. On peut faire énormément de choses là-dessus. Donc, une panne, même de quelques heures, peut avoir un impact majeur sur l'économie et sur le fonctionnement et le déplacement des individus. Donc, si vous n'êtes pas capable d'accéder à un service ou à un lieu parce que vous n'avez pas accès à WeChat, c'est un problème. Donc, il y a des enjeux de sécurité qui se jouent à ce niveau-là. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai eu la réflexion. Par la suite, j'ai été pris comme tout le monde pendant quelques heures à ne pas pouvoir accéder à ces plateformes-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens avec qui je communiquais principalement par Messenger. Donc là, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait si, disons, il y a une panne plus longue ou plus généralisée sur les applications, ou disons une panne Internet? Comment on entre en contact avec les gens? Donc ça te fait réfléchir sur le fait que faut des fois avoir un petit plan de rechange sur comment on peut contourner ce genre d'enjeu-là. Je ne sais pas si... un autre exemple de panne à laquelle on peut revenir facilement, c'est la panne Rogers qui a eu lieu, je pense, c'était l'année dernière, celle-ci. Et ça, c'était tout. On pouvait rien, en fait, on pouvait accéder à rien si on n'était pas connecté à un Wi-Fi. Donc, il fallait tout ce qui devait passer par le réseau LTE ne fonctionnait pas pendant plusieurs jours. Et donc, on peut voir que ça aussi, ça a un impact. Donc, il faut se préparer des petits plans de rechange. Je pense que je me sens comme dans, si je faisais une pub. Vous vous rappelez la pub, je pense que c'était une pub du gouvernement du Canada là, qui vous disait que vous aviez besoin d'un plan en cas de feu. Comme ça, vous êtes prêt en cas d'urgence. Ben, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça aussi avec les technologies. Donc, si vous êtes plus capable d'accéder à vos réseaux, comment vous faites pour entrer en contact avec les gens et continuer à échanger entre vous. Donc, une grosse question que je pose, mais je n'ai pas nécessairement la réponse parce que maintenant, on est tellement connectés et on le prend tellement pour acquis que les pannes arrivent un peu par surprise et on ne sait pas trop quoi faire quand ça se passe. Donc, voilà. Mais en fait, aussi, je voulais aborder avec ce sujet-là mon exploration d'une section commentaire sur un article de Radio-Canada qui relayait la nouvelle, donc qui nous explique qu'une panne de Facebook, de Meta et de toutes les applications reliées. Et je suis allé voir la section commentaires. Ça, je dois avouer que c'est une petite passion que j'ai en ligne. J'aime ça, aller voir ce que les gens disent sur certains sujets, même si des fois j'en ressors un peu découragé. Et je dois vous dire que ma lecture des commentaires de cet article m'ont laissé un peu perplexe. Ça faisait très tant mieux pour les accros du téléphone. Ils vont enfin pouvoir avoir une pause et revenir à la réalité. C'est pas vraiment un problème si important. On n'avait pas besoin d'en parler dans les médias. Donc il y a une série de commentaires qui font bon. Je vous m'excuserai si y a des gens qui se sentent interpellés par ce commentaire, mais ça fait un peu boumeux, du genre les jeunes sont trop connectés aux applications et ils devraient passer plus de temps à jouer dehors. Ça sonnait un peu comme ça. Mais je trouve ça dommage aussi que on minimise l'impact que l'inaccessibilité à ce genre de réseau-là peut causer. On pourrait là passer une panoplie de contexte dans lequel c'est important, les réseaux sociaux. Et des fois, j'aimerais ça que les gens sortent un peu de l'idée que si on est accro à ces applications-là, c'est parce qu'on est des mauvaises personnes, on n'est pas capable de se gérer soi-même. C'est des applications qui sont faites pour nous contenir, pour attirer notre attention. Et c'était très conscient de la part des compagnies d'essayer de nous englober dans l'écosystème de leurs applications, de leur technologie. Donc, de faire en sorte qu'on ait besoin de plus en plus d'utiliser certaines plateformes. Donc, et aussi que les écosystèmes soient aussi interconnectés. On s'entend, WhatsApp, ça n'a pas toujours appartenu à Meta. Donc, les réseaux de WhatsApp n'étaient pas reliés à la compagnie, mais maintenant, ça a été racheté. Donc, toutes les notions de monopole, comment les compagnies évoluent en ce moment, ça fait en sorte que ces pannes-là sont beaucoup plus graves qu'on pense. Et c'est pas juste une question de ben, tant mieux pour nous, ou tant mieux pour ceux qui sont trop accros, il faut qu'on fasse autrement. C'est le problème, c'est aussi comment l'écosystème a été mis en place. Donc, je me sers apporter cette nuance et j'espère que les gens comprennent qu'il y a des enjeux à ce niveau-là. Aussi, j'ai pas pu m'empêcher de penser aux gens qui utilisent ces applications-là pour rester en contact avec la famille, avec des amis, tu sais, des relations qui sont à distance, parce qu'il y a des gens qui sont, il y a beaucoup de gens qui sont issus d'une immigration, qui vivent dans d'autres pays pour toutes sortes de raisons, et ne pas avoir accès à une plateforme, que ce soit pendant quelques heures, ben, ça peut avoir un effet majeur, ça peut avoir des conséquences négatives, et il faut pas minimiser la chose. Donc voilà, là-dessus, on va l'écouter, la chanson Conspire de Gwendoline, et pendant que ça joue, ben, je vous invite à vous faire votre petit plan d'urgence si vous perdez accès à vos moyens de communication en ligne. Bonne écoute.
Union soviétique, modèle idéal, la Corée du Nord, mon système social, ticket de rationnement, dénonce ton voisin, culte du chef, c'est notre champion. Gloire au parti, à tous les travailleurs, hymne national, on va les niquer, c'est nous les meilleurs, on va la gagner. Achète une merguez pour la caisse de grève, santé mon Bernard, pour tous tes milliards, le bon politique, c'est celui qui fraude. C'est celui qui fraude. Paradis fiscal, soleil agréable. Laissez nos banquiers, laissez-les travailler. Les États-Unis, la fierté des armes. Arabie Saoudite, le respect des femmes. Centre commercial, c'est vraiment génial. Centrale nucléaire, une énergie fiable. Dans les abattoirs, confort de l'animal. En Amazonie, ils aiment les arbres. Arrêtez de critiquer, retournez dormir, allez travailler, retournez dormir. Vive la nation, vive la légion, il faut garder notre fric, on emmerde les régions. L'écologie ça sert à rien, tout ça c'est du bidon. Faut plus de gasoil pour notre nation. Envoyez l'armée, sans limite ni restriction, on veut tout. Consommer, surtout si c'est moins cher. Fermez les associations, foutez-les en prison. C'est une conspiration, tous les pauvres et les chiens. Armée obligatoire, dès l'âge de 16 ans. Discipline et volonté pour notre intégrité. Car ce monde est génial. Car ce monde est génial. Car ce monde est génial.
théâtre à petit prix, c'est possible. Au Théâtre aux Écuries, à partir de chaque premier du mois, les billets pour les représentations dès vendredi soir à venir sont au tarif de votre choix. Oui, oui, de votre choix. Vous venez de payer votre loyer, les factures d'électricité. Permettez-vous de venir au théâtre à petit prix. 2 $, 5 $, 15 $, tout est possible. Offre disponible en ligne sur auxécuries.com.
Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute Les Criques à Crinquer, les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM.
Salut, c'est Vincent et Julien de Double Date with Death. Vous écoutez CISM.
Le Refrain présente son premier événement, le Grand Éphémère. Du 22 au 24 mars 2024, on t'invite à venir festivaler comme jamais en assistant à plus de 40 prestations artistiques issues de 17 disciplines. Tu pourras entre autres voir Ariane Moffat, Demain l'hiver, Notre grande nuit de la poésie, Canem, Alpha Rococo ou encore des performances d'art numérique. C'est 100% gratuit, mais tu dois réserver tes places sur lerefrain.com.
Hello, ici c'est Petit Béliveau, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radio campus de la planète Terre.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.
Sure.
Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre les chansons Three Floors, Three Doors de Abby Sage, qui est au palmarès album à la 27e numéro, 27e position, et c'est tiré de l'album The Rot. Et ça a été suivi de Franchement de Bonnie Banane, qui est au palmarès franco à la 25e position. Donc, avant la pause, je vous ai parlé de le retour sur la panne et de Meta, donc qui nous a privé de tous les services reliés à la compagnie. Et j'ai abordé un peu toute la section commentaires de la chose qui me fait sourciller. Mais ça me fait penser que j'ai jamais réussi à approfondir ça à l'émission, mais j'ai vraiment une fascination pour la culture des commentaires en ligne. Donc, je sais pas comment je pourrais faire quelque chose autour de ce thème, mais il y a plusieurs facettes qui m'intéressent par rapport à ça. Entre autres, souvent, dans des médias comme Radio-Canada ou des médias, disons, francophones, on voit qu'il y a, on dirait, une panoplie de gens qui ont l'air d'être 5 personnes qui commentent tous les articles, et c'est intéressant de voir pourquoi il y a des gens qui sont aussi investis dans les sections commentaires. Autre chose qui je trouverais vraiment fascinant, c'est d'explorer les commentaires YouTube, parce que c'est beaucoup... On parle beaucoup des memes à travers les images qui sont diffusées, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une culture un peu de memes sur la façon dont les gens commentent sur des plateformes comme YouTube. C'est beaucoup, les gens répètent souvent les mêmes choses, c'est un peu une émulation du même commentaire à répétition, et il y a une partie de moi qui a envie d'étudier ça de manière sociologique, on pourrait dire, mais j'ai pas eu encore le courage de le faire, ni le temps. Je sais pas non plus sur quelle langue j'aimerais faire ça, mais j'ai quand même une petite... c'est ma fascination secrète dans le monde digital, c'est de toujours aller lire les commentaires sur des vidéos, sur des articles que je lis. Mais donc, voilà, je ferme la parenthèse là-dessus, et on va aller du côté d'Elon Musk, hein, mon cher ami que j'adore... aborder à l'émission, parce que chaque fois qu'on en parle, il en ressort quelque chose de constructif, de bien, on se dit, hey, une chance qu'il est là. Parce que c'est ça, Elon Musk, c'est notre sauveur à tous. Mais, en fait, là, il fait les manchettes parce qu'il a décidé de poursuivre OpenAI. Et vous allez voir qu'il fait ça parce qu'il a à cœur votre intérêt. Donc, c'est vraiment un homme altruiste qui est là pour vous, monsieur et madame, tout le monde. Donc, voilà. En fait, j'espère que vous avez décelé qu'il y a de l'ironie là-dedans. J'aime mieux quand même me défendre un coup que je reçois un appel de quelqu'un qui me dit « Voyons que tu défends Elon Musk de manière aussi formelle à l'émission. » Donc, vous comprendrez que c'est pas le cas. Mais donc, Elon Musk poursuit OpenAI parce qu'apparemment que la compagnie, OpenAI, qui n'est pas une compagnie, on s'en rappelle, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'aider l'humanité, aurait apparemment pas respecté une clause d'un contrat avec Elon Musk. Par contre, de tous les articles que j'ai lus sur le sujet, faut comprendre qu'il n'existe aucun contrat entre Elon Musk et OpenAI. Donc, Elon Musk a peut-être fait un don d'argent à l'organisme, à OpenAI, mais c'est un don fait à un organisme. Donc, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas quelque chose qui a été mis sur papier. Mais là, selon Elon Musk, il y a des problèmes chez OpenAI qui a arrêté de servir le bien commun, l'humanité en général. Et ça mérite d'être débattu en cours. Et donc, il va y avoir sûrement des revirements par rapport à tout ça. Mais c'est intéressant parce que c'est pas le seul cas qui se passe en ce moment du côté d'Elon Musk en cours, et apparemment qu'il commence à être un petit peu énervant du côté des juristes, parce qu'il va souvent en fait essayer d'établir ou de mettre en procès d'autres parties avec très peu de fondements légaux, et donc il y a une petite tendance à énerver les juges qui doivent juger ces dossiers. Donc, ça va être sûrement la même chose pour ça, parce qu'en effet, il n'y a aucun contrat écrit. L'élément de base pour dire qu'il y avait justement une entente entre OpenAI et Elon Musk, c'est un échange de courriel, mais il n'y a rien là-dedans qui justifie qui constitue une preuve d'un point de vue légal aux États-Unis. Donc, ça ira pas très loin comme dossier, mais naturellement, tout le monde en parle, et c'est peut-être juste ça aussi, hein, Elon Musk, c'est peut-être juste un très grand farceur, mais qui veut absolument qu'on parle de lui de toute manière. C'est sûr qu'il doit avoir un petit côté très narcissique, on n'a pas de doute là-dessus, mais voilà, puis c'est pas mal ça qu'il y a à dire là-dessus. Par contre, OpenAI a commenté aussi en disant que bon, il y a un petit peu d'hypocrisie de la part de Elon Musk et que en fait, il y a une frustration chez lui parce qu'il aurait aimé avoir plus de contrôle chez OpenAI. OpenAI dit que avant de finalement de devenir un organisme à but non lucratif, il avait été question de voir si c'était possible de se développer en tant que compagnie privée. Et apparemment que Elon Musk aurait fait de la pression pour que cette compagnie-là se devienne en fait soit fusionnée avec Tesla et aurait voulu devenir le CEO de OpenAI. Donc, il aurait voulu se mettre à la tête et contrôler un peu la compagnie. Donc, naturellement, chez OpenAI, ils disent qu'ils se sont détachés de ça parce que c'est pas ça qu'ils voulaient. Et ils se défendent en disant que personne ne devrait avoir de contrôle sur la technologie ou un contrôle absolu sur OpenAI parce que c'est un outil pour le bien de l'humanité. D'ailleurs, là, de toute façon, de toute part, je trouve ça drôle que l'argument des deux côtés soit « nous sommes les gardiens du bien de l'humanité ». C'est un peu... ça peut faire sourciller quelques personnes parce que en tout cas, moi, ça me laisse perplexe. J'ai mis des doutes par rapport à tout ça. Mais donc, ça me fait rire d'une certaine manière que ce soit la clause qui soit débattue en ce moment dans toute cette chicane entre OpenAI et Elon Musk. Mais reste que vous allez beaucoup entendre parler de ça. Les deux parties sont aussi très impliquées dans le discours qu'on critique de plus en plus sur un peu le... on est en train de magnifier ce que l'intelligence artificielle peut faire. On en parle comme d'un développement majeur qui va chambouler le développement de l'humanité, qui peut avoir des conséquences majeures pour l'espèce humaine et qu'il faut à tout prix leur donner en fait du financement pour que ces génies qui sont toutes ces personnes puissent contenir tous les dangers posés par l'intelligence artificielle. Donc les deux parties sont un petit peu là-dedans. Et des fois, ça fait un petit peu... c'est agaçant à voir et on est encore beaucoup dans le déterminisme technologique. Donc, la technologie s'en va dans une direction, il n'y a pas d'autre option et il faut absolument la contenir. Mais on développe quand même de plus en plus d'outils pour qui seraient techniquement dangereux. Donc, des fois, c'est un discours, c'est un double discours qu'on tient de part et d'autre. J'ai l'impression que la sortie d'Elon Musk contre OpenAI, c'est vraiment juste une certaine frustration sur le manque de contrôle qu'il peut exercer sur l'organisme. Donc, il y a quelque chose là qui sûrement doit blesser Elon Musk, qui aime ça s'accaparer des compagnies et faire ce qu'il veut avec. Et vous avez juste à regarder X, donc l'anciennement Twitter qui continue. On dirait que tout le monde a juste laissé tomber la couverture autour de X. C'est juste devenu ce que c'est et il n'y a plus personne qui est vraiment intéressé par la plateforme. Mais on voit qu'il y a peut-être une certaine frustration chez Elon Musk de ne pas pouvoir faire la même chose avec OpenAI. Mais un point qui a été mentionné par contre dans toute la conversation, c'est que c'est vrai qu'il pourrait avoir une critique intéressante à faire envers OpenAI sur le modèle d'organisme à but non lucratif. Est-ce que c'est vraiment ce que la compagnie fait? On ne le sait pas. Donc, il y a beaucoup de doutes par rapport à ça. Donc, la structure d'organisme à but non lucratif pourrait être critiquée puis on pourrait remettre en cause, en fait, l'altruisme réel chez OpenAI. Mais peut-être que Elon Musk n'est pas la bonne personne pour faire ça. Donc, voilà. Là-dessus, on va aller écouter la chanson June Perseide de Pomme. Et moi, je vous reviens pour d'autres conversations techno. C'est là qu'on s'est aimé.
de faire la paix et ne plus détester ce que je suis. Après tellement d'années, j'ai compris. Je m'allongeais et le ciel se faisait paradis. C'est là qu'on s'est aimé pour la première fois. Alors, je
Heureux, bienvenue tout le monde à l'écoute de Vivo du Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre la chanson When I Grew Up de Fever Ray, donc un bon classique qui habituellement je fais jouer à l'automne, mais bon, on est tout printemps, c'est pas grave. Je peux faire jouer ça quand j'en ai envie. Mais donc, on est de retour à des nouvelles techno et on continue d'explorer tout ça, mais là, on s'en va du côté de l'intelligence artificielle. Donc, avant la pause, j'ai parlé de la chicane de Elon Musk et OpenAI. C'est bien intéressant tout ça, mais là, je veux aller vers un article que j'ai trouvé pour de vrai, sans ironie, franchement intéressant. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose aussi le fun et aussi pertinent sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est un article de New Yorker qui s'appelle « How to Picture AI ». Ça a été écrit par Jaron Lanier. Je pense que j'ai abordé un autre de ces articles à l'émission il y a quelques semaines, donc peut-être en février. C'était aussi très intéressant, mais la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on peut faire sens de l'intelligence artificielle pour les gens qui ne sont pas dans l'industrie? Et la question est importante parce que qu'est-ce que l'auteur met de l'avant, c'est le fait que même si on doit rendre des trucs très complexes plus simples, les images sont vraiment nécessaires pour qu'on puisse quand même saisir ce qu'une technologie fait et aussi éviter de tomber dans le mysticisme autour d'une technologie quelconque. L'exemple qui était donné par l'auteur, c'était des vaccins qui ont été créés pendant la pandémie. Il y avait des schémas qui expliquaient comment les vaccins fonctionnaient et comment la technologie était novatrice par rapport aux vaccins précédents. Donc, il y avait toutes sortes de graphiques qui nous expliquaient la chose. Et naturellement, dans chaque schématisation, il y a une perte d'information. On essaie de rendre quelque chose d'abordable, une structure qui est excessivement complexe. Donc, c'est immanquable, mais ça permettait justement aux gens de finalement se faire une idée par rapport à ça et d'aller se faire vacciner. Donc ça, c'est l'exemple qui était donné, mais l'auteur avance que dans le domaine de l'intelligence artificielle, on n'a pas encore une image claire de qu'est-ce que fait cette technologie et il y a plusieurs points qui sont intéressants. C'est, on se demande même si il n'y a pas une forme de... On pourrait dire, ou c'est pas, comment l'exprimer, c'est, on se demande si c'est pas pratiquement volontaire de garder un peu le secret autour de comment fonctionne l'intelligence artificielle. Et ce secret-là, ben, en fait, permet de nourrir des discours qui sont très, très fantastiques autour de l'intelligence artificielle, comme on en parle souvent, l'idée que, bon, l'intelligence artificielle va nous remplacer bientôt, qu'elle va devenir bientôt consciente, et ça, vu qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, que notre idée n'est pas claire, c'est facile pour le public d'accepter les idées qui sont avancées de l'avant, des fois par les quelques personnes qui ont la maîtrise de la technique autour de cette technologie-là. Donc, c'est un des enjeux qui est critiqué dans l'article, puis je pense que c'est très important, puis je pense que c'est aussi, ça reflète beaucoup un peu un des enjeux ou une des missions peut-être de l'émission, c'est de pouvoir fournir une forme de vulgarisation de ce qui se passe dans le monde de la techno, mais de manière à ce que ça soit, bon, accessible, et tout en permettant quand même une perspective critique. Donc, je trouvais que ça... que c'est intéressant. Mais tu sais, l'auteur montre vraiment qu'il y a aussi, on commence à traiter l'intelligence artificielle comme une religion, pratiquement. Donc, il y a quelque chose qui est troublant par rapport à ça. Donc, d'ailleurs, moi-même, dans mes recherches, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à déconstruire, comme on parle de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne le savaient pas, je fais un doctorat sur le rôle des algorithmes et de l'intelligence artificielle par rapport aux communautés LGBTQ+, donc l'impact que ça peut avoir pour l'expression de ces identités-là, et ainsi de suite. Je ne vous ferai pas un résumé trop détaillé de la chose, mais souvent, quand on commence à entrer dans cet univers-là où on commence à se lancer dans la littérature autour de ça, on retrouve le terme du black box, donc la boîte noire autour des algorithmes, qui est souvent utilisé pour parler du manque d'informations qu'on possède sur comment une technologie fonctionne. Mais dans le domaine académique, ça a été beaucoup critiqué, puis on appelle maintenant à dire que, bon, les algorithmes ne sont pas une boîte noire, et essayer de s'éloigner de ce genre de discours-là, parce que ça, c'est problématique d'une certaine manière. Et des fois, ça permet aux compagnies de se détaché de toute forme de responsabilité parce que on a souvent vu des compagnies comme YouTube ou comme Meta dire que bon, il y a eu des problèmes avec leurs algorithmes, mais ils ne pouvaient pas savoir parce qu'il y a des affaires qui se passent sans on contrôle pas l'intelligence artificielle, donc on ne fait pas savoir que ces choses-là allaient se produire, on va corriger la situation. Donc des fois, ça permet aux compagnies de jouer un peu sur la carte de c'était hors de notre contrôle, même si c'est elle qui a développé cette technologie. Donc il y a quand même une ça rejoint beaucoup cette approche-là. Mais ce que l'auteur essaie de faire, donc là, il y a toute cette introduction-là, ce préalable, et je vous invite vraiment à aller lire l'article parce que c'est super intéressant. Et le but, c'est de essayer de construire une image autour de l'intelligence artificielle. Et je pense que l'article arrive vraiment bien. Je vais vous faire un résumé de la chose, mais je vais vous inviter à aller le lire plus en détail parce que naturellement, ben, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui essaie de décrire une image à la radio, mais aussi, il y a beaucoup de détails qui sont intéressants. Mais personnellement, je pense que même moi, ça m'a permis de mieux comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne. Ce que l'auteur fait, c'est commencer par nous expliquer dans les de base, là, qu'est-ce que ça fait de l'intelligence artificielle par rapport à une image. Donc, on nous demande de se poser la question, comment est-ce qu'on fait ou comment est-ce qu'on arrive à développer une technologie qui est capable de faire la différence entre un chat et un chien. Donc, c'est ça la question de base. Et après ça, on nous explique à travers l'analogie d'un arbre comment c'est fait. Donc, le sol, donc où l'arbre est posé, c'est l'image originale. Et, les feuilles, donc si vous arrivez au-dessus de l'arbre, c'est l'input final. Donc, ceci est un chat, ceci est un chien. Donc, on peut faire ça, on peut transposer cette analogie-là à toutes sortes de choses que l'intelligence artificielle est capable de faire. Mais l'arbre, en tant que tel, est composé de filtres. C'est en fait des analyses d'informations de l'image originale qui permettent finalement, à force d'entraînement, à discerner les deux choses. Donc, c'est un modèle, c'est vraiment complexe comme information, mais cette image-là permet vraiment de saisir un petit peu plus comment ça fonctionne. Et là, par la suite, l'auteur développe, là, on a juste un arbre qui est capable de déceler un chat d'un chien. Après ça, on a plein d'autres arbres qui peuvent faire des milliers d'autres choses. Donc là, on se retrouve avec une forêt. Et à partir de là, c'est là que les modèles de l'IA générative entre en jeu et on nous montre comment finalement ben, c'est ça, l'IA générative est capable de, à partir de tous les arbres existants, d'en construire un nouveau selon les inputs que nous on donne. Donc si je vais sur une application pour générer une image, puis je dis montre-moi, crée-moi un chat qui est en train de faire ses taxes, ben là ça va être plusieurs arbres qui vont être utilisés pour créer un nouvel arbre. Et c'est un peu l'image qu'on nous donne, puis je pense que c'est intéressant, puis ça nous permet aussi de mieux comprendre la limite de l'intelligence artificielle. Et ce que l'auteur dit, c'est que dans sa vision des choses, c'est que ce que crée l'intelligence artificielle ne dépasse jamais les autres arbres existants. Donc, l'intelligence artificielle plafonne d'une certaine manière. Et la question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'on croit que l'intelligence humaine plafonne au même niveau que les arbres de l'intelligence artificielle ou est plus haut? Et donc, est-ce qu'une intelligence artificielle pose vraiment un problème pour l'instant pour la créativité humaine, pour l'espèce humaine, et ainsi de suite. Et ça permet de nuancer certaines critiques ou certains dangers qu'on nous lance à gauche et à droite par rapport à l'intelligence artificielle. Et j'ai trouvé que c'était excessivement bien fait. L'article se conclut aussi sur un truc que j'ai trouvé important, mais il disait si la technologie doit évoluer au point où cette image-là de l'analogie des arbres de la forêt fonctionne plus, ben c'est la responsabilité des gens qui développent la technologie de trouver une autre analogie et de rendre cette technologie-là compréhensible pour tout le monde. Et le but est vraiment d'éviter toute forme de mysticisme ou de discours un peu magique autour d'une technologie, puis ça, je pense que c'est assez crucial. Donc, je vous rappelle, si vous voulez aller lire ça, c'est How to Picture AI, c'est sur The New Yorker, ça a été écrit par Jaron Lanier. Donc, voilà, là-dessus, on va aller écouter la chanson Madone de Virginie B, et moi, je vous reviens pour la suite de l'émission. Re-bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre la chanson « Penser l'inacceptable » de Laetitia Saddy. Donc voilà, comment je me suis bien enfargé dans cette présentation de chanson. Mais voilà, c'est une excellente chanson quand même. Mais là, on sort de l'intelligence artificielle et je vais faire un petit retour de nouvelles plus larges en rafale. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à lire l'article. Ça m'a vraiment motivé puis ça a fait du bien de pouvoir moi-même mieux comprendre certains éléments de l'intelligence artificielle. C'est drôle de travailler sur une technologie, mais d'être tellement axé d'un côté que même moi, des fois, j'ai besoin d'un petit rafraîchissement par rapport à tout ça. Donc, si jamais j'ai une conférence puis on essaie de me challenger sur ma compréhension des algorithmes, je pourrais sortir cette belle analogie. Mais là-dessus, on passe à autre chose et je voulais commencer par parler d'une expérience personnelle. Donc, cette semaine, j'ai décidé de me remettre au sport. Vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Et j'ai fait des vidéos en ligne d'entraînement. Donc, il y a du pilates, il y a du yoga, des affaires de même. Et je suis retourné sur les chaînes que j'avais commencé à suivre pendant la pandémie. Et ça m'a amené toutes sortes de questions à savoir, il y a combien de gens qui... En fait, de quoi a l'air l'industrie de la santé digitale en ce moment dans le monde en ligne? J'aimerais ça faire une recherche plus approfondie. J'ai pas eu le temps de faire un dossier pour aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de questions. Entre autres, c'est quoi cette industrie-là? Combien ça rapporte? Et aussi, quelles sont les disciplines que les gens recherchent le plus, mais aussi quelles sont les formations? Ce que je vois beaucoup avec le digital health et que je trouve troublant et un peu aussi des fois agaçant, c'est qu'il y a beaucoup de pubs et de référencements qui sont faits sur comment... D'ailleurs, là, je parle de ça en ce moment et je vous parie que je devrais avoir une pub dans les prochains jours sur comment avoir des abdos présentés par je sais pas quel dude américain qui va me dire qu'il a la technique pour que j'obtienne un corps de rêve. Donc ça, c'est un peu agaçant. Mais j'aimerais ça savoir un peu plus c'est quoi les méandres de tout cet univers des coachs, des coachs de santé. Il y a aussi beaucoup de gens qui développent des pages de nutrition. Et j'aimerais voir, statistiquement parlant, qui est nutritionniste dans toute cette gang-là. J'imagine que c'est peut-être pas si élevé que ça. Mais en fait, ce que ça me... amener comme réflexion, c'est que j'aimerais des fois à l'émission essayer de faire des explorations dans des domaines digitaux auxquels je suis très peu familier et tout ce qui est digital health, je dois avouer que je ne suis pas la meilleure personne pour ça. Je ne connais pas beaucoup ce monde-là et donc j'aimerais ça aller voir quels sont les... de quoi ça a l'air cette industrie-là. D'ailleurs, moi, quand je cherche des choses en ligne, je vais souvent me référer à des listes et je m'assure de prendre du contenu qui est pas trop lié à des programmes ou à des ventes de services trop fortes, parce que je sais que des fois, pour ça peut être assez... ça peut être lourd et troublant. Donc, j'essaie de m'éloigner de tout ce qui est conseils autres que des conseils nutritifs, par exemple. Ça, je m'éloigne de ça. Mais il y a des manières de chercher des vidéos qui sont bien correctes et qui font ce qu'ils ont besoin de faire sans tomber dans l'espèce de culture d'influenceur coach de vie qui, elle, je trouve, est peut-être un petit peu plus troublante. Mais qui sait, peut-être que c'est une excellente industrie et que tout va bien là-dedans. On s'entend, c'est très rare dans le monde digital, mais c'était quand même tout ça pour dire que je me suis posé des questions et j'espère pouvoir développer ce genre d'exploration-là à l'émission, donc des explorations en terre inconnue. Il y a d'autres domaines que j'aimerais pouvoir explorer plus en détail. Je pense que aussi tout ce qui est technologie portable, dans le sens qu'on peut se mettre dessus, ça m'intéresse pas parce que moi je veux le porter, mais justement c'est quelque chose que je ne connais pas. Je parlais avec un ami hier même sur le fait que j'achèterai jamais de Apple Watch parce que je sais pas pourquoi, s'il y a eu quelque chose qui... Ça me tente pas d'avoir un écran sur mon poignet constamment qui me dit que j'y suis ou que j'ai pas assez mangé ou que mon battement de cœur est anormal. Je trouve ça anxiogène et aussi je trouve ça franchement laid. Donc, tout simplement, je trouve que les montres intelligentes, par exemple, c'est très laid. Donc, désolé pour tous ceux qui ont des Apple Watch, je veux pas vous insulter, à chacun son style, mais c'est pas le mien. Donc, voilà, je ferme cette parenthèse sur une possible exploration de sujets à l'émission. Sinon, dans les nouvelles aussi, vous allez voir que on va beaucoup parler d'une des nouveaux MacBook qui ont été annoncés, je pense, hier. Donc, les nouveaux MacBook qui présentent la nouvelle puce M3. On vous promet de la vitesse, de la rapidité, des choses que vous avez jamais vues auparavant. Donc, ça vaut la peine de mettre 2000$ dans un nouvel ordinateur pour avoir accès à cette puce, malgré que très réalistement, plusieurs disent que l'ordinateur Air, qui a toujours la M1, est encore très bon pour tous ceux et celles qui cherchent un rabais et qui ne veulent pas dépenser autant d'argent. Mais ce qui m'a fait rire avec la nouvelle des Mac M3, c'est qu'il y a eu une série d'éloges qui ont été écrites pour le design original du MacBook Air. Donc, j'ai vu des articles avec des titres comme « Goodbye to the Wedge » parce que les gens sont très tristes que le MacBook Air perde sa forme de patate de patate wedge. Donc, je ne sais pas pourquoi. Les gens étaient attachés au design et là, maintenant, le MacBook Air ressemble beaucoup au MacBook Pro, donc un design très carré, très épuré à la Apple. Et les gens s'étaient attachés à l'ancien design. Et là, il y a quand même une tristesse par rapport à ça. Et ça me fait rire, ce genre d'analyse. Mais pas ça me fait rire, mais je trouve ça fascinant. On a eu la même conversation quand Apple a décidé de retirer le bouton physique, le bouton central sur les iPhones. Les gens disaient, ben c'est la fin d'une ère. Adieu, le bouton central. Et il y a eu plein d'articles qui ont été écrits sur le design. Donc, c'est intéressant de voir comment on s'attache aussi à des designs et à des de nos technologies, à quel point ça peut être difficile de les voir partir par la suite. Donc, voilà. Il y a aussi un autre article que je vous invite à lire si jamais vous avez l'envie, mais c'est « Why are people falling in love with AI? » C'est publié sur The Verge et il y a toute une section sur comment Tinder utilise aussi l'intelligence artificielle pour vous aider à matcher dans l'univers du dating. Je trouve ça fascinant, donc je vais creuser là-dessus puis sûrement que je vais vous en parler la semaine prochaine, mais en attendant, si vous avez envie d'explorer ça, allez lire ça sur The Verge. Donc voilà, là-dessus, on va aller écouter la chanson Amnésie de Favel et moi, je vous reviens pour la conclusion de l'émission.
Plusieurs mois que tu m'obsèdes, les jours passent, je laisse en rêve. Je t'avouerai, je ne sais plus sur quel pied danser. On s'est fait vœu de négligence, un peu pour tuer la romance. Un soir sur Saint-Laurent, un soir de s'amitié pour la santé. Danser collé, baiser fruité, sans trop penser, déshabillé, câlin collé pour me crier.
Re-bienvenue tout le monde à l'écoute de la vue du Wi-Fi. Vous venez d'entendre la chanson Lisbonne, Paris, la Sorbonne, et donc de grand public. Et c'est pas mal là-dessus aujourd'hui que l'émission se termine. Donc, je vais vous dire merci d'avoir été à l'écoute et de m'avoir laissé ou de m'avoir écouté parler avec beaucoup de passion sur les analogies de l'intelligence artificielle. Donc, comme d'habitude, je vous invite à aller sur le site web de CISM si vous voulez écouter l'émission d'aujourd'hui ou les émissions des semaines précédentes. Et si vous passez par le site web, n'oubliez pas l'infolettre parce qu'à cause de Meta, on n'est toujours pas disponible sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez être à jour sur ce qui se passe à CISM, plein de belles choses à la station, c'est la manière de le faire. Sinon, si vous voulez entrer en contact avec moi, c'est sur ma page Facebook ou encore ma page Instagram. Nous, aujourd'hui, on va se quitter sur la chanson « Dans un fou rire » de Fishback, qui doit justement rire de toute la poursuite d'Elon Musk contre OpenAI. Et comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Mes amis, et bien j'en...
C'est quoi ton nom?
Mon nom, Alexandre.
Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM.
J'aime CISM.
Allô, on est le groupe de musique normale Crab et vous écoutez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,3 FM CISM, 110% la marre.
Laurence Anne, vous êtes sur les ondes du séisme CISM 89.3.
Je sais où je vais.
Pour être aux premières loges de la découverte musicale dans toute sa diversité, c'est au Francouverte que ça se passe. Du 11 mars au 13 mai, en salle ou sur le web, le concours Vitrine vous présente 11 soirées, 21 artistes de la scène émergente, ainsi que de nombreux invités. Rendez-vous à francouverte.com pour connaître toute la programmation, choisir vos spectacles et visionner une foule de vidéos. Les Francouvertes n'ont plus de frontières. Tentez l'expérience. Une présentation de SiriusXM.
Ici CRI, vous écoutez CISM.
Tous les mardis, dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
Indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3.
L'appel de projet pour la saison d'été de CISM, c'est en ce moment. Alors oui, j'aurais pu vous rappeler que CISM, c'est la plus importante radio étudiante francophone en Amérique du Nord. Que CISM, c'est le meilleur de la création musicale et culturelle de la relève. Que CISM, c'est des émissions engagées, pointues et passionnées, animées par plus de 100 bénévoles. Mais si vous m'écoutez, vous savez déjà tout ça. Alors si toi aussi, tu as des choses à dire, des idées à défendre, des passions à partager, envoie-nous ton démo et ton projet d'émission. Pas besoin d'être aux études, pas d'expérience requise. Visite le cism893.ca à la section implication. Tu as jusqu'au dimanche 24 mars.
This is Chris from Metz, and you're listening to CISM in Montreal.
Cette saison, célébrer les joies de l'hiver à Côte-des-Neiges en profitant des nombreux attraits, activités hivernales et découvertes locales gourmandes dans un quartier complètement animé. Découvrez la programmation hivernale de Sentier des Neiges en visitant gemctn.ca.
Allô, ici Le Couleur et vous écoutez CISM 89.3 FM.
Écoutez CISM 89.3 FM.
C'est parti! Et oui, les amis,
on est de défoncer vos oreilles.
Ah, il faut que je parle moins fort?
Non, ça va, là, mais okay, c'est sûr que quand tu criais pendant le jingle, ça se peut qu'il y ait des gens.